Vous écoutez France Culture.
Hé, hey, chef, voyons n'en pas griffer, moi.
Ça suffit.
On est encore tombé chez des dingues. Hein.
Ouh là là, c'est super.
Ambiance électrique ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question d'animation, de Romain Gary, de fêtes foraines, d'auto-tamponneuses et même de partouze. Avec Bill Clinton qui signe Les Amants électriques, un film d'animation pour un drame de la conjugalité, atmosphère violente mais tempérée par de grands dessins à l'aquarelle, Benoît Lagane.
Et dans ce film, le maître du cinéma d'animation indépendant américain passé par le dessin de presse chorégraphie ses personnages en musique et en cri, en exagérant volontairement l'anatomie humaine.
En plein milieu de l'émission, la session sera inédite ce soir avec Mathieu Conquet, c'est Washington Dead Cats du Punkabilly.
Un groupe dont le guitariste est aussi un dessinateur, Fred Beltran. Primitive Girls are more fun en son et en image donc.
Nous recevrons aussi John Sfar pour l'ensemble de son œuvre du moment qui compte un roman d'heroic fantasy, l'illustration de La promesse de l'aube de Romain Gary et la fin de Donjon, sa série culte de BD. Bref, une œuvre monstrueuse, héroïque et fantaisiste, Benoît Lagane.
Et avec son nouveau roman, Johan Sfar revient par la fantaisie sur la terre de son enfance, ou comment faire naître ogres et barbares dans un pays niçois où la pluie jaillit du sol et tombe de bas en haut.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet, puis on retrouvera bien sûr les brèves de Benoît Lagane.
Bonsoir Laurent et bonsoir à tous. Une idéologie d'État, c'est ainsi que dans une lettre ouverte, 25 professeurs de l'Académie des sciences de Russie ont qualifié les récents projets du Kremlin en matière de politique culturelle. Cette prise de position fait en fait suite à une série de déclarations et révélations politiques la semaine dernière qui annonceraient une réorientation de la politique culturelle russe contre l'Occident. C'est en tout cas ce qu'affirment certains analystes politiques interrogés par l'AFP à Moscou après la divulgation dans la presse d'un document de travail issu du Kremlin et intitulé « Les fondements de la nouvelle politique culturelle en Russie ». Alors le texte de 13 pages est signé d'un haut responsable du ministère de la Culture et il a été adressé au directeur des principales institutions culturelles une semaine après le début des événements d'Ukraine. Pas de directive cependant, mais plutôt une sorte d'essai à thèse, disons, sous-titré « La Russie n'est pas l'Europe ». En fait, sur fond de philosophie conservatrice du philosophe allemand Spengler, c'est un document ouvertement nationaliste, à la fois comique et dangereux. Là, c'est ce que me disait tout à l'heure au téléphone le commissaire d'exposition contemporain, Andrei Erofiev.
Il déclare un retour vers les formes traditionnelles de la culture russe. D'ailleurs, n'annonçant pas du tout quelles sont ces formes traditionnelles. Mais de toute façon, et c'est clairement dit dans ce document, que l'art contemporain est une influence occidentale et est une chose à combattre. On voit très bien que ce document vise à attaquer et à faire revenir dans l'underground les formes de la création contemporaine, aussi bien dans l'art contemporain plastique que dans le théâtre, qui est très attaqué aujourd'hui, dans les cinémas et dans d'autres types de créations. Pour l'instant, ce n'était que des paroles, parce que nous avons eu quand même la Biennale de l'art contemporain, nous avons eu toutes sortes d'ouvertures sur l'art contemporain, et ça continue d'ailleurs encore. Mais le climat actuel en Russie a énormément changé après les Crimées et tout ce qui se passe en Ukraine. On peut craindre que ces paroles vont très vite devenir actes.
Et alors, quelles sont donc les intentions du gouvernement russe? Un projet répressif à usage national, semblait dire finalement Andrei Erofiev. Le ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, ne se prive pas en effet de dire que la Russie est, je le cite, trop tolérante avec les artistes contemporains. Mais le gouvernement a apparemment un peu reculé ces derniers jours en déclarant qu'il s'agissait, là je cite, de provoquer la discussion. Impossible cependant de joindre aujourd'hui le ministère de la Culture de Russie. Mais ce qui est nouveau dans cette affaire, ce sont ces déclarations à portée plus générale, les propos mercredi dernier de Vladimir Medinsky sur une civilisation russe, chrétienne et indépendante de l'Occident à protéger, qui coïncide avec ce tenu le jour d'après par Vladimir Poutine lors de la séance de questions télévisées, où pour la première fois il a employé l'expression de monde russe, qui fait directement référence à l'Empire de Russie. Un Empire de Russie élevé moralement et opposé à un Occident égoïste. Et à l'approche des commémorations historiques du 9 mai, eh bien le verrouillage se fait déjà sentir, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure au téléphone l'ancien correspondant de France Culture, Alexis Ipatovsev. Il était à Moscou ce matin.
Aujourd'hui,
aujourd'hui, on ne peut pas toucher à tout ce qui concerne l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a de plus en plus de sujets tabous qui apparaissent de cette manière-là. Il y a quelques artistes actionnistes qui ont été arrêtés, notamment à Saint-Pétersbourg, mais qui a été relâché ensuite. Je peux vous raconter une anecdote. J'étais hier dans un bureau de traduction de dessins animés américains pour les chaînes télévisuelles. Il y avait un feuille accroché au-dessus sur lequel était marqué comment il faut traduire certaines expressions anglaises. Et notamment, c'était marqué « Vu les dernières tendances politiques en Russie, évitez à tout prix de traduire dans le sens positif ou même neutre tout ce que concerne l'homosexualité ». Donc, il y a déjà quelques lois liberticides, on peut dire, qui ont été promulguées. Et à l'esprit général, je dirais très conservateur, qui règne. Et voilà une doctrine qui risque de devenir une doctrine officielle culturelle, un cas assez unique, je crois, en Europe aujourd'hui.
C'est à voir, avec en tout cas un Vladimir Poutine qui décidément ne laisse rien au hasard, puisque la lettre à laquelle il répondait dans sa tirade sur le monde russe lui était envoyée de sa ville natale, Saint-Pétersbourg, par une femme nommée Ekaterina, qui est le prénom de Catherine II, la grande impératrice de Russie.
Merci Xavier Martinet. On vous retrouve demain pour le journal de la culture que je poursuis tout de suite de votre côté, Benoît Lagan.
Et toute cette semaine de Pâques, Laurent, une série de brèves en forme d'agenda afin de remplir notre petit panier culturel.
Et pour commencer,
direction la Maison des Métallos à Paris où s'ouvre aujourd'hui et jusqu'au 26 avril une semaine sur le thème de la réparation en prenant pour trois objets de réflexion la guerre d'Algérie, la guerre civile libanaise et le génocide rwandais. Le spectacle Je vous ai compris de Valérie Jiménez et Cinda Kessab, dans lequel les auteurs reviennent sur leurs origines, leurs liens avec l'Algérie, sera présenté ce soir et demain à 20h. Et puis deux films seront projetés d'ici la fin de la semaine. Bruxelles-Kigali de Marie-France Collard et celui d'Eliane Raheb, Nuit sans sommeil, un film sur le silence officiel du Liban et concernant les milliers de disparus de la guerre entre 1975 et 1990.
En mai, fais exactement ce qu'il te plaît.
Et en mai, n'hésitez pas à aller voir Ils se marièrent et eurent beaucoup, la très belle pièce de l'auteur de théâtre pour enfants Philippe Dorin, magnifiquement mise en scène par Sylviane Fortuny. Cette pièce, interprétée par des comédiens russes et français, réussit le tour de force de dire un texte en français et en russe sans surtitre dans cette pièce drôle et mouvante destinée au
j'ai
départ
l'impression que vous êtes leur attaché de presse,
un jeune
là.
Public, non mais parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle. Eh bien les comédiens, Laurent, jonglent avec la langue et le public, adulte comme enfant, comprend tout. C'est ça qui est assez génial. Ils se marièrent et eurent beaucoup, c'est à Noisy-le-Sec au Théâtre des Bergeries les 15 et 16 mai et à Nantes au Grand T les 22 et 23 mai prochains.
Et pendant ce temps-là, eh bien du côté des séries.
Eh bien pour cette semaine, 100 petites histoires en contrepoint au festival Sériemania qui a lieu au Forum des Images à Paris. Encore une nouvelle du monde des histoires qui se raconte en épisode. Et ce soir, direction Los Angeles où la production de la série musicale Glee s'entraîne sur la vie de lycéens artistes en herbe dont quelques-uns finissent par tenter leur chance à Broadway. Eh bien la production a annoncé il y a quelques jours la venue dans les derniers épisodes de leur saison 5 de Shirley MacLaine qui fête ses 80 ans jeudi prochain.
Elle va pas beaucoup danser. Hein.
Non mais elle va peut-être chanter. Elle y interprète le rôle d'une richissime New-Yorkaise qui va soutenir un des jeunes héros de la série afin de l'aider à devenir une star, à voir aux États-Unis en mai et en France dans la foulée.
Merci Benoît Lagan.
De rien.
Exactement, j'adore ce terme.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau électrique, d'abord avec vous Bill Plimpton, dessinateur de presse, cartooniste, animateur américain, une figure du cinéma d'animation indépendant et underground découvert dans les années 80, réalisateur de clips pour Madonna ou encore Kanye West. Vous êtes aussi le fondateur de votre propre studio Plimtoons. Vous ne vous connaissez pas, je crois, avec Johan Sfar et pour autant, vous participez ensemble au film d'animation produit par Salma Hayek, qui est une adaptation du prophète de Khalil Gibran. Vous intervenez à quel niveau chacun d'entre vous ?
I was asked to illustrate one of the chapters of the prophet, and the chapter I chose was eating and drinking.
Ils m'ont demandé d'illustrer un des chapitres d'un prophète, et moi j'ai choisi le chapitre manger et boire.
And I've never met Selma Hayek, but I hope.
J'ai jamais rencontré Selma Hayek, mais j'espère à l'avant-première de film on peut faire la fête ensemble.
Pourquoi avoir choisi précisément ce chapitre-là?
I didn't choose that chapter. I wanted the what was it called? The pleasure chapter.
Moi, j'ai pas choisi le chapitre, ce chapitre-là. Moi, je voulais le chapitre sur le plaisir, mais quelqu'un d'autre l'a pris avant moi, donc ils m'ont donné manger et boire.
John Sfar, c'est vous qui aviez pris le chapitre sur le plaisir?
Non, moi c'est pire. Moi j'ai beaucoup dîné avec Salma Hayek, mais elle m'a dit le seul chapitre qui me reste, c'est le mariage. Alors j'ai dû faire le mariage.
Mais ça aurait été pas mal en fait.
Bah, non, j'aurais préféré le plaisir.
Bah, vous aussi, vous auriez préféré le plaisir. Donc ça signifie qu'en fait chaque chapitre va être traité différemment selon les dessinateurs qui sont présents? Il y a combien de chapitres?
And there's some brilliant artists, really.
Oui, chaque chapitre est fait par un artiste différent. Il y en a qui sont vraiment brillants, et je suis très content de faire partie de cette œuvre.
Un souvenir avec Salma Hayek, Johann Sfar.
Oui, j'ai commis une grande erreur. J'ai appelé son assistante du nom de son chien et ça a vexé tout le monde. Le chien s'appelait Dolly et je croyais que c'était la dame. J'ai dit bonjour à Dolly et tout le monde a été vexé.
Alors, que représente pour vous, Johann Sfar, Bill Plimpton? Parce que moi, je l'ai présenté, mais j'imagine qu'un autre dessinateur, illustrateur de renom, a peut-être une autre vision que le générique purement factuel que j'ai pu commettre.
Non seulement c'est un génie absolu, mais en plus, c'est le seul animateur que les dessinateurs de presse et de bande dessinée peuvent comprendre parce qu'il anime tout lui-même. Il n'est pas obligé d'expliquer comment dessiner à d'autres artistes. Il fait tout lui-même. Et ça, l'animation faite par une seule personne, c'est de plus en plus rare et c'est ce qu'il y a de plus pur. Donc c'est un maître et en même temps, ça reste très artisanal. Ça reste fait avec une main et un cerveau.
Et de votre côté, Bill Plimpton, que représente pour vous Johann Sfar? Parce que je sais, on en a parlé un peu avant l'émission, que vous connaissez son travail.
Well, the beauty in the artwork is really impressive to me and that's rare.
C'est la beauté du dessin qui m'impressionne le plus. C'est quelque chose de très rare aujourd'hui. On voit beaucoup de bandes dessinées où c'est vraiment de la merde ce qu'on voit. Et le travail de Johann, c'est autre chose.
Pour autant, il a intitulé son journal qui est paru l'année dernière « Journal de merde hein, », c'est ça, Johann Sfar. Donc la merde est quand même présente. À un moment donné,
je m'intéresse à tout le processus digestif.
Je peux imaginer. Benoît Lagane.
Alors, Bill Plimpton sort demain en salle votre 10e long-métrage, si j'ai bien compté, 10e long-métrage d'animation, « Les amants électriques », l'histoire d'un coup de foudre dans une fête foraine, une passion amoureuse dévastée par la jalousie de Jake, qui pense que sa femme sublime, Ella, le trompe, qu'elle est une grande partouzeuse alors qu'elle est très sage et très amoureuse de son homme. Jack va alors devenir un serial trompeur et là, aidé par un magicien, va tenter de le récupérer. Comme toujours chez vous, c'est un film violent mais jamais cru, avec une animation extrêmement poétique, une aquarelle animée, soutenue par une bande-son extrêmement riche. Et puisqu'on est à la radio, extrait sonore de la bande-annonce. Alors, on l'entend, la particularité de ce film, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Comment travaillez-vous, Bill Plimpton, la matière sonore de vos films, dans ce film-là en particulier?
Well, the music was particularly fun because we used a wonderful.
La musique était particulièrement marrante parce qu'on a travaillé avec une chanteuse française qui s'appelle Nicole Renaud.
And the film was very passionate. It's like an opera. It's very over the top, operatic.
Le film est très passionnant, presque comme une opéra, et je pensais que la musique de Nicole, ça marchait très bien avec ce côté opératique du film.
But can I say something?
Of course.
Quelque chose.
There is no dialogue in the film. It is music and sound effects.
Il y a pas de dialogue dans le film, c'est que des effets sonores, la musique, donc j'ai pas fait de voix dans le film.
But I did do the sound effects, and I can do one for you now, one of the voices.
Par contre, j'ai fait des effets sonores moi-même, donc je peux faire pour vous maintenant quelques effets.
It's during the sex scene, is that okay?
C'est pendant la scène de cul.
That's my voice in the film.
Je ne vais pas traduire ça. Mais...
Si, vous allez traduire. Je suis désolé, vous allez devoir traduire cela. Juste un mot à propos de Nicole Renaud. C'est une chanteuse soprane, compositrice française. Elle est installée à New York depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que ces compositions ont de si particulier? Parce que vous faites appel systématiquement à elle, et pas simplement donc pour ce film, Bill Plimpton.
Well, she has a marvelous sense of style that's very original. And it's very nostalgic. I like it.
Elle a un style merveilleux, très original et surtout nostalgique. Ça m'a fait penser à la radio des années 40 et c'est quelque chose que j'aime.
I could imagine her in some cafe with her accordion.
Je peux l'imaginer dans un café avec un accordion en train de jouer pour un orchestre.
C'est l'effet Ratatouille?
Yes, oui. Maybe.
Johann Sfar, vous qui êtes aussi réalisateur et qui avez aussi signé des films d'animation, est-ce que vous êtes très attentif à la bande-son, au travail sur les voix, au travail sur les sons, sur la musique?
C'est vital. C'est vital, on fait ça au début. On travaille avant même le film, on veut les voix, les sons, et on essaye de ne pas monter sur l'image. Parce que si on monte trop sur l'image, y a quelque chose qui ne marche pas. Donc on pense à l'image et on est un peu de côté pour faire comme si c'était un vrai film live.
Vous comprenez cette façon de travailler, Bill Plimpton?
Absolutely, yeah. For me, the image is the most important part because cinema is visual.
Absolument, pour moi, l'image est très importante, le plus important parce que le cinéma reste visuel et je veux que les gens voient l'histoire avec leurs yeux.
Benoît Lagan.
Alors, sur le plan visuel, vous avez fait le choix de personnages dont vous avez exagéré l'anatomie humaine, corps très musclé, cou très long, les personnages sont dilatés comme des perspectives. Comment ce dessin s'est imposé et qu'est-ce qu'il vous permettait ici de développer? Parce que ça n'a pas toujours été le cas dans vos films, d'être aussi exagéré.
My art career as a caricature artist, and I really thought.
En fait, j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste comme caricaturiste. Je faisais des caricatures, et je pensais pour les hommes électriques, ça serait bien de justement d'exagérer le personnage physiquement pour créer plus d'émotion, pour donner l'émotion à l'écran.
Avec ce film, vous dites retrouver le style que vous aviez développé en tant qu'illustrateur, on vient de l'entendre, et dessinateur de presse, une aquarelle avec crayon et encre. Vous n'aviez jamais eu la possibilité de transposer ce style dans vos films d'animation à l'époque. Pour quelles raisons techniques cela n'avait pas été possible jusqu'à aujourd'hui?
Well, it wasn't just the caricature, it was the aquarelle technique.
Donc la différence était on pouvait utiliser un ordinateur maintenant pour justement donner toutes les couches de couleurs et le style aquarelle que je faisais dans mes dessins avant.
And it was very slow, and we needed to hire many artists to do it.
C'était très lent. On était obligé d'embaucher beaucoup d'artistes pour le faire, et il est devenu très cher le film.
So I went broke. I had no money to finish the film.
J'étais fauché. J'avais pas assez d'argent pour finir le film, et j'ai fait appel à Kickstarter, un site pour trouver des fonds en ligne pour finir le financement du film.
Very bad at going to Hollywood and begging for money.
Moi, je ne suis pas capable, je suis nul pour aller à Hollywood et demander l'argent là-bas. Donc, Kickstarter était parfait pour moi pour faire appel aux gens par Internet.
Un commentaire peut-être, Johan Farr, sur cette difficulté justement de transposer l'aquarelle pour un film.
C'est une question passionnante. L'ordinateur ne sert pas juste à faire de la 3D. Il sert à aider un seul artiste à être le plus protéiforme possible. Et après, il faut savoir s'en servir de manière limitée, c'est-à-dire pas utiliser toutes les possibilités, mais dire « bon, je veux juste une aquarelle, on va essayer de l'obtenir ». Et c'est un outil aussi pour l'artisanat, l'ordinateur. Donc, il ne faut pas diaboliser l'ordinateur.
Benoît Lagan.
Alors, pour préparer ce film, vous avez réalisé deux storyboards. Un premier avec 800 dessins de la taille, j'ai pu lire, d'un timbre-poste, puis un autre définitif avec quasiment 1400 dessins plus grands et détaillés. Que vous permettent finalement, Bill Plimpton, ces deux étapes, ce passage d'un storyboard à l'autre, avant de passer à la réalisation?
Well, you did your research. I'm impressed.
Vous avez bien fait votre recherche.
The second storyboard is a lot more detailed. The art drawings are much larger. And
le deuxième storyboard est beaucoup plus détaillé. On peut voir vraiment tout le vêtement, les expressions, toutes les couleurs par rapport au premier storyboard.
So when I start animating the film, I put page one of the storyboards on my art table.
Donc quand je commence justement à animer le film, je commence avec le premier storyboard et il y a déjà toute l'information là-dedans. Et ça rend le processus d'animation plus facile quand j'ai déjà presque tout dans le storyboard.
John Sfar, vous, comment vous travaillez le storyboard quand vous passez?
Exactement de la même façon.
Deux storyboards?
Exactement de la même façon. On appelle ça des timbres-postes. On commence par des choses toutes petites, comme si on regardait de loin, et après on va dans le détail. Et après on donne à d'autres dessinateurs. Et grâce à l'ordinateur, on peut travailler à plusieurs sur le même dessin. On se le renvoie, on revient dessus. Mais il faut que ça parte de timbres-postes, de l'idée première qu'on a.
Alors au festival du film indépendant de Slamdance, vous aviez déclaré, Bill Plimpton, qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans Les Amants électriques parce que vos personnages n'avaient pas exactement, par exemple, le même visage tout le temps, ni le même corps. Et c'est exactement vrai. Or, ce sont des erreurs que vous assumez. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce que vous appelez des erreurs?
Well, I believe in mistakes. I don't know if you agree with me, but I find mistakes are beautiful.
Moi, je crois que les erreurs sont en fait très belles. Et les erreurs m'amènent justement à faire des choses nouveaux et originaux. Et je trouve que les erreurs, en fait, c'est essentiel pour faire mon art.
My films are very different from a Pixar or a Disney film because
mes films sont très différents des films de Disney et Pixar parce que dans ces films-là, tout est parfait, toute ligne est parfaite et j'aime pas ça du tout.
I want my drawings to look like they were made with a human hand and not a machine. And I think people will relate to that.
Je veux que quand les gens voient mes dessins, ils voient que ce sont des dessins qui sont faits par une main humaine et pas par une machine. Je trouve justement que le fait que ça soit humain, ça rend les choses plus chaleureuses et plus doux en fait pour le spectateur.
There's 40,000 drawings in the film, and I did every one.
Il y a 40,000 dessins dans le film et j'ai fait chaque dessin moi-même et je me suis éclaté le plus que dans ma vie.
Joan Sfar, donc, sur cette marge d'erreur.
C'est éblouissant. C'est éblouissant parce que regarder l'animation de Bill Plinton, c'est comme voir un nuage qui se déforme. C'est un vrai dessinateur, il n'est pas employé par quelqu'un. Et il peut, donc le dessin influence ce qui va se passer dans l'action. Ce n'est pas juste l'histoire. Et c'est comme si un nuage se désagrégeait devant vous. C'est magique, c'est vraiment magique.
Et cette histoire d'erreur, est-ce que c'est quelque chose, vous aussi, que vous revendiquez ?
Moi, je l'ai en bande dessinée. En animation, c'est beaucoup plus difficile parce que j'ai une grande équipe et je suis obligé de les briefer. Donc, mon dessin animé n'a pas la pureté organique du travail de Bill Plimpton. Mes bandes dessinées, peut-être. Parce que c'est la main d'un homme seul qui permet l'erreur. Quand on est un groupe, on est obligé de contrôler.
Bill Plimpton, vous disiez à l'instant que vos dessins étaient en rupture avec l'efficacité de Disney d'une certaine manière. Pour autant, les studios Disney étaient venus vous chercher à une époque. Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher chez vous ?
Yes. This was after I was nominated for an Oscar in 1987.
C'était après que j'étais nommé pour un Oscar en 1987.
And a lawyer came to my studio.
Un avocat est venu à mon atelier avec un contrat et il m'a dit Disney veut vous donner $1 million pour travailler avec nous.
And people say that to negotiate with Disney is not so much good cop bad cop. But bad cop antichrist.
Les gens disent pour négocier avec Disney, c'est pas une question de bon flic, mauvais flic, c'est plutôt bon flic antichrist.
For example, I wanted to make my short films on the weekend, and the lawyer said, "Yes, you can do that."
Je voulais par exemple faire mes courts métrages pendant le week-end, et l'avocat a dit, pas de problème, Disney va être propriétaire de ces courts métrages.
And if I told someone a funny story. Disney owns that.
Si je racontais une histoire drôle à quelqu'un, Disney serait propriétaire de cette histoire aussi.
And if I have a dream, Disney owns the dream.
Et si j'ai un rêve, Disney est aussi propriétaire du rêve.
So I said no.
Donc j'ai dit non.
And I found out later that they wanted me for Aladdin.
Donc j'ai appris après, c'était pour le film Aladdin, et c'était pour faire juste le personnage de génie et toutes les transformations, métamorphoses du génie.
Benoît,
vous le disiez tout à l'heure, Bill Plimpton, vous avez longtemps exercé comme dessinateur de presse. Qu'est-ce qui vous pousse à passer le cap de l'animation, justement, dans les années 80 ?
Well, to go back to Disney, I love Disney. And when I was a little
pour revenir à Disney, moi, quand j'étais enfant, j'adorais Disney et je voulais dessiner Mickey Mouse et Donald Duck pour ma carrière.
So I worked for print only because
j'ai travaillé pour la presse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail dans le film d'animation dans les années 70 et il fallait que je gagne ma vie en faisant mon art.
I did a lot of illustrations for men's magazines, Playboy, Penthouse, Hustler.
J'ai fait beaucoup de dessins pour le magazine masculin comme Playboy et Penthouse et c'est là où j'ai Hustler et c'est là où j'ai trouvé justement mon humeur un peu sexuelle.
So I much prefer to be in animation than in print.
Mais maintenant, je préfère faire l'animation que la presse.
Sur Disney, peut-être qu'on pourrait vous entendre, John Sparks.
Moi, je possédais beaucoup de magazines Penthouse, mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça
non,
a beaucoup aidé aussi ma sexualité.
Enfin, je peux imaginer.
Et Disney, oui, c'est formidable, parce que tout le monde a ça dans son imaginaire, tout le monde a envie de jouer avec, et puis c'est pas permis.
Bill Plimpton, votre premier film d'animation était musical. C'était un court-métrage Boomtown en 85, un film sur les absurdités des dépenses militaires de la guerre froide jusqu'aux années 80. Vous êtes aussi connu pour votre anti-militarisme. Que doit finalement votre entrée dans l'animation à la politique de Ronald Reagan ?
Well, I don't like to make animation about politics.
J'aime pas faire l'animation politique, mais je faisais beaucoup de politique quand je travaillais pour la presse.
The problem is that politics change every two or three years.
Donc, la politique change tous les 2-3 ans, et si je faisais ça, mes films seraient serait obsolète.
So I want my films to be seen by my children and my grandchildren and
donc je veux que mes films soient vus par mes enfants, mes petits-enfants ou des gens dans 100 ans. Donc j'essaie d'éviter dans la plupart de mes films d'animation de faire la politique.
Et de quel ordre est votre engagement politique aujourd'hui, même s'il ne passe pas par vos films d'animation, Bill
Clinton? Well, I like Obama.
J'aime Obama.
But other than that, I just love to draw.
En dehors de ça, j'aime dessiner.
Très bien. Sorry.
Désolé. Désolé.
Vos films ont été beaucoup projetés sur les campus universitaires et vont plaire donc notamment pour leur anticonformisme, mais vont aussi beaucoup déplaire, notamment à certains mouvements féministes à une époque. Que vous reproche-t-il à l'époque? Bill Plimpton.
I'm impressed.
Je suis impressionné.
That's true. Even my sister, who is a lesbian, hates my films.
Même ma sœur qui est lesbienne déteste mes films.
But you know, I'm not making films for everybody. I'm not.
Je fais pas de films pour tout le monde. Je n'essaie pas de satisfaire tout le monde dans la salle.
Can I swear on this?
J'ai le droit de dire de gros mots.
I remember when I ran into Quentin Tarantino.
Je me souviens quand j'ai rencontré Quentin Tarantino quand Reservoir Dogs a été montré au festival de Sundance.
And a lot of people walked out with the ear scene.
Et beaucoup de gens sont partis pendant la scène où il coupe l'oreille.
And I said, Quentin, aren't you angry that these people
Quentin, vous n'êtes pas en colère, les gens quittent la salle pendant cette scène.
And he said, "Oh, fuck them if they don't have a sense of humor."
Donc il a dit mais qu'il va se faire foutre s'ils ont pas un sens de l'humour.
And that's what I say to feminists.
Est-ce que j'ai dit aux féministes?
Qu'est-ce que vous dites aussi à votre sœur?
Oh, my sister, yes.
Oui.
Qu'est-ce que votre sœur, qui est donc lesbienne, reproche à vos dessins, Bill Plimpton?
Well, the sexuality. She does not like the sexuality.
Elle n'aime pas la sexualité de dessin, de mon travail.
Alors une dernière question peut-être justement à propos de Quentin Tarantino. Oui, vous l'évoquiez à l'instant, il aime citer ses influences dans ses films et il vous a rendu hommage dans Kill Bill. En quoi votre univers a-t-il pu nourrir le sien, Bill Plimpton?
Well, I did talk to him at Sundance and he was a big fan.
J'ai parlé avec lui à Sundance, il était un vrai fan de mon travail.
And he asked me about your face,
il m'a posé des questions sur mon film Your Face, ton visage.
And 25 ways to quit smoking.
And 25 ways to quit smoking, 25 façons de quitter à fumer.
But I don't know if they influenced him or not, who knows.
Je ne sais pas vraiment si ça a influencé Tarantino ou pas.
But he's one of my heroes. I love his relate film. To him.
Il est un de mes héros. En fait, je trouve qu'il fait des presque de dessins animés avec de vrais acteurs en live. Et donc, c'est pourquoi j'aime tellement son travail.
On va parler de musique dans quelques instants. Mais tout de suite, j'aimerais vous poser une question par rapport au clip que vous avez réalisé. Vous avez réalisé un clip pour Kanye West, un autre pour Madonna. C'est elle qui est venue vous chercher. Elle aussi, comme Quentin Tarantino, est une grande fan de Bill Plimpton.
I think she was a fan of my work. I never met her. I worked through a studio.
Je pense qu'elle était fan de mon travail, mais en fait, je ne l'ai jamais rencontrée. Moi, j'ai travaillé dans un studio à New York, dans un atelier à New York, et elle était à Los Angeles, donc on ne s'est jamais rencontrés, en fait.
Although I never met Madonna.
Je n'ai jamais rencontré Madonna, mais j'ai fait un film qui s'appelle Push Comes to Shove, qui était au Festival de Cannes.
And I could not go to Cannes because I was in the middle of a production of another film.
Donc, je ne pouvais pas aller à Cannes parce que j'étais en train de faire un autre film.
But I was watching the ceremonies on TV and Madonna came on TV and said the winner of the prix de jury for a short film was Bill Plimpton. She said, Bill Plimpton, will you come up?
Donc en fait, j'ai regardé la cérémonie de remise de prix à la télévision et il y avait Madonna qui donnait le prix de meilleur court-métrage. Elle a dit, Bill Plimpton, est-ce que vous pouvez venir chercher votre prix? Mais je n'étais pas là, j'ai regardé ça à la télévision.
And I was going, Madonna, I'm here. Give me the prize.
Madonna, donnez-moi le prix, s'il vous plaît.
So maybe I will never meet her.
Donc peut-être je vais jamais la rencontrer.
Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans l'exercice du clip musical?
I love music videos because they give you a freedom.
Donc, moi, j'adore les clips vidéo en fait parce que on a vraiment la liberté de visualiser ce qu'on veut. Avec la musique, il y a beaucoup, beaucoup de liberté dans ces gens.
And Kanye West came to my studio, and as I was drawing on the drawing board, he was looking down like this at every little detail.
Donc, par contre, Kanye West est venu à mon atelier et pendant que je dessinais, il regardait tout ce que je faisais.
And he looks at it and says,
il a regardé le dessin que je faisais. Lui, il a dit, je pense que je suis un peu plus beau que ça.
C'est la même chose que je me suis dit quand je me suis vu dans un journal de Johann Sfar. Je ressemble, mais oui, je ressemblais à qui déjà? Chaque fois,
à Charles Aznavour.
À Charles Aznavour mort.
J'ai fait ça, moi. Bah, vous savez que les comédiennes sont très contentes quand on les dessine parce qu'au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'on n'est pas photographe et qu'on ne garde pas les défauts.
Le rendez-vous, 10h. La session.
La session, Mathieu Conquet, ce soir.
Inédit. Trop festif pour les psycho pour les alternos, trop alternatif pour les rockers, trop rock'n'roll pour les punks. Les Washington Dead Cats occupent toujours la place en 2014. Venus de la scène alternative dans les années 80, ils viennent de publier leur 10e album, Primitive Girls Are More Fun, un imaginaire qui emprunte à la série Z, au film gore, à la bande dessinée, aux filles sexy dessinées par Fred Beltran, le dessinateur et guitariste du groupe, avec le chanteur Matt Fireair qui était dans nos studios, le studio 108 à France Culture. Il y avait aussi à la basse El Guanaco. Si Widio à la batterie, aux trompettes, saxophones et chœurs, c'était Mols et Colim Gigi. The River Carries Me. The river carries me and I let myself go. Without a helm and these eyes, and I don't know if I'll be traveling. In a calm of love, or in the rift of despair's arena, carries me far away from you. The river carries me far away from you. Tide, I try to return to the riverside. A current is stronger, I call it a struggle. Oh, not to sing and drown in the black waters of despair. The river carries me far away from you. The river carries me far away. Les Washington Dead Cats dans les studios de France Culture, ils seront en concert le 3 mai à Montreuil pour la fête de la CNT, le 16 mai à Nîmes, le 18 mai à la Maroquinerie à Paris pour le festival Everybody Loves the Clash. Les Washington Dead Cats, leur album est paru sous le label des Villes de Luxe, pièce.
Le rendez-vous.
plateau roman et fantasy avec vous, Joanne Sfar, dessinateur, écrivain, cinéaste multi-récompensé. On pense à Gainsbourg vie héroïque ou Le chat du rabbin. Bref, un auteur prolifique. La preuve, entre la fin 2013 et ce début 2014, il y a eu la parution de votre journal de merde chez Gallimard, deux nouveaux tomes de la série Donjon avec Lewis Trondheim chez Delcourt, votre version graphique du roman La promesse de l'aube de Romain Gary, coédité chez Futuropolis et Gallimard, et un second roman chez Gallimard, Grand Clapier. Ça se passe dans un ancien temps, au pays de Nyssa, l'histoire d'un ogre amoureux d'une reine qui part à la recherche d'une licorne et qui va rencontrer sur sa route Brasque le Noir, un barbare avec qui il va s'associer. On l'a compris, dans l'héroïque fantasy situé au pays niçois dont vous êtes originaire. En quoi ce roman de fantasy peut-il être aussi lu comme un roman régional transgressif?
Parce que c'est de l'hyper-réalisme. C'est moi qui ai 43 ans et qui me retrouve encore à raconter des barbares, ce qui est complètement débile. Et pour que ce soit réaliste, je mets dans mes souvenirs d'enfance de l'école maternelle à Nice, où on nous racontait Nice comptoir grec, Nice habitat préhistorique, Nice à la Renaissance avec le palais Lascaris, et moi au char de carnaval qui montait sur le char de Gargantua et Pantagruel quand j'étais petit. Donc c'est mes souvenirs d'enfance de barbares, et c'est l'histoire d'un barbare qui vit une crise de la quarantaine quand même.
Alors justement, en quoi l'histoire de la région de Nice porte-t-elle en elle tous les germes pour pouvoir développer tout un monde d'heroic fantasy, alors même que ce genre littéraire a plutôt tendance à décrire des mondes nordiques?
Eh bien, vous avez tout dit, on n'en peut plus des Nibelungs et de l'Écosse. Je ne vois pas pourquoi les Provençaux n'ont pas droit aussi d'avoir des dragons, des tarasques, des monstres, d'autant que vraiment c'est vivace. Et puis quand on voit une région inexplorée pour la fantasy, ça fait envie. C'est toujours pareil, on a envie de ne pas remarcher sur les traces de Tolkien, on a envie de réveiller Botticelli, tout ça, enfin... Moi, et puis, je trouve que dès que c'est sur la Côte d'Azur, il y a plus de filles, forcément.
Ce n'est pas la première fois que vous travaillez à la fantasy. Il y avait eu votre série de BD Donjon, il y a toujours. Mais l'approche y est plutôt parodique. Dans le roman, vous avez souhaité aborder le genre sérieusement, pour de vrai, ce sont vos expressions.
Plus que sérieusement, je dirais y croire, parce qu'on rigole tout le temps quand même. Mais ce n'est pas un hasard que Donjon s'arrête quand l'ancien temps Grand Clapier commence. J'ai besoin d'y croire parce que les légendes de mon enfance me manquent. Et j'ai revu les Kurosawa avec tous ces films de sabre et je me dis, je veux raconter l'aventure d'une espèce de Toshiro Mifune qui a un tapir géant et qui se bagarre contre des rois et des reines avec son copain qui ressemble à Chewbacca. Voilà, c'est à peu près le projet, c'est ça. Et c'est pas plus sérieux que ça, mais moi, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien.
Bill Plimpton, est-ce que vous êtes lecteur d'Heroic Fantasy?
I mostly watched television, unfortunately.
En fait, non, moi je regarde plutôt la télévision, et c'est là où je trouve la plupart de mes idées.
But can I ask Joanne a question?
Je peux poser une question à Joanne.
I'm very jealous of your success in making a
Joanne Sfar, je suis très jaloux de votre succès. Comment ça se passe quand vous avez tellement de pouvoir, tellement d'argent pour faire et distribuer votre propre film?
Oh, it's exactly like what you do in cartoons, except you're allowed to have sex with the characters. So basically, that's just wonderful. You can touch everyone, and you're the chief. They don't complain. You know, it's like good to be the king. Donc, especially in France, everything is allowed.
Traduction en français de Johan Sfar, qui vient de parler anglais.
Donc oui, en fait, c'est génial parce que c'est comme faire une bande dessinée, sauf qu'on peut coucher avec tout le personnage parce qu'on a tout le pouvoir, ce qu'on veut, surtout en France.
Très bien. On va tout refaire.
C'est de la déconstruction.
Déconstruction, reconstruction. Benoît Lagan.
Tout à l'heure, vous évoquiez effectivement Tolkien. En quoi votre récit, c'est aussi être contre Gandalf? Parce que c'est ce que vous avez dit, j'ai pu lire.
Ça, c'est essentiel. C'est l'idée.
Il faut dire qui est Gandalf.
Voilà. Gandalf, c'est le magicien dans Le Seigneur des Anneaux. Mais tous les récits, depuis le roi Arthur, sont des récits d'obéissance aux personnes âgées. On va vous apprendre un ordre religieux ou moral, et quand le magicien n'est pas là, on a très peur. Bon, Grand Clapier, l'ancien temps, c'est l'inverse. Les vieux ont toujours tort. Alors là, il y a les monothéistes qui ont tort, il y a les polythéistes qui ont tort, et mes petits personnages, ils vont devoir s'inventer une morale à eux. Ouh, ça fait peur.
Joanne Sfar, j'ai lu dans un article, mais il me semble faux, que pour écrire, vous étiez plutôt du matin et que vous dessinez, et que pour dessiner, vous étiez plutôt de la nuit. Est-ce que c'est vraiment le cas?
J'essaie de m'organiser, mais en fait, je ne fais jamais deux journées pareilles. Ce que j'ai constaté, c'est qu'écrire, c'est quand même un peu comme le transit intestinal. Il vaut mieux que ce soit tous les jours à la même heure et assez longtemps. Enfin, dans mon cas. Et le dessin, par contre, ça peut venir à tout moment. Donc, dès que je me réveille, je vais écrire. Et après, quand il n'y a plus d'écriture, je me mets à dessiner.
Aujourd'hui, vous souffrez particulièrement de la jambe parce que vous passez 12 heures à dessiner dans les cafés. C'est ce que vous m'avez dit en arrivant à l'émission. Vous écrivez où aussi? Dans les cafés ou ça, c'est chez vous?
J'écris dans les cafés, je dessine dans les cafés. Et comme je fais la suite du chat du rabbin en ce moment, ça m'angoisse beaucoup. Donc, j'ai attrapé une sciatique. comme les vieux chiens. Faut me piquer.
Benoît. Alors, autre actualité, c'est la réédition de La Promesse de l'Aube de Romain Gary chez Futuropolis et Gallimard. Alors, c'est ni signé donc par Sfar, c'est ni une adaptation en bande dessinée. Le texte est autonome, ni vraiment comme un roman illustré, car le texte original en fait est percé à de nombreuses reprises par des planches que vous signez. En quoi La Promesse de l'Aube imposait-elle cette forme justement entre roman et BD?
Parce qu'on n'est pas non plus dans le roman graphique, hein.
Non,
pas du tout.
Non, la question qu'on s'est posée avec Futuro, c'est comment faire pour faire du livre illustré pour les grandes personnes. Donc il faut que le dessin ne recoupe pas le texte, il faut que le dessin ouvre la porte à une lecture presque indépendante du texte, et il faut absolument que les gens lisent le texte du roman. Ce n'est pas juste quelques grandes illustrations pour faire joli. Il y a ce roman qui fait 400 pages, et il y a 600 dessins dedans, donc le bouquin ressemble à un bottin téléphonique, et on utilise l'illustration, le dessin légendaire et la bande dessinée. L'idée, c'est d'utiliser tout ce que j'ai dans la main pour aider le roman, pour le re-raconter. Et je reviens au dessin classique. Ça fait 5 ou 6 ans que je faisais que des dessins à l'aquarelle, très vite fait et tout. Là, je reviens à la plume, à l'encre de Chine, au dessin que j'avais dans le Chat du Rabbin. Mais je dis, c'est mon style tardi ou crumb, je ne sais pas. Mais cette idée, on va faire de l'illustration et elle ne sera pas accessoire dans le livre. Elle va raconter aussi.
Qu'est-ce que représente ce roman de Gary pour vous? Et peut-être plus largement d'ailleurs son œuvre littéraire, Johann Sfar.
Moi j'aime tout chez Romain Gary, y compris ses livres. Et lui et moi avons grandi à Nice. Il a eu une mère omniprésente. Moi j'ai perdu ma mère avant l'âge de 4 ans. Ça fait assez de proximité et assez de différence pour que ça m'intéresse. Et j'ai pu redessiner tous les lieux de mon enfance. Le club de tennis du Parc Impérial, le lycée Masséna, la promenade des Anglais, le marché de la Buffa. Tout ça, ce sont des endroits que je connais. Et puis... je dois dire que j'aime bien le général de Gaulle. Moi, j'ai l'impression que le verrou de l'extrême droite en France, ce n'est pas la Shoah, c'est le général de Gaulle. Ils essaient de se débarrasser de Gaulle pour ramener Maurras. Donc, tous les gens qui vont défendre de Gaulle m'intéressent beaucoup. Et alors, Gary, c'est le plus grand.
Johann Sfar, lors de la sortie en salle du film Gainsbourg, la vie héroïque, vous disiez que Gary et Gainsbourg se ressemblaient, et pas uniquement de par leurs origines russes. Qu'est-ce qui les rapproche, Gainsbourg et Gary?
L'amour fou de la France et de ses institutions. À un moment, je crois, dans le roman, on lui dit qu'il faut être étranger pour aimer la France à ce point. Il y a ça chez Gainsbourg, il y a ça chez Gary, il y a ça chez Joseph Kessel, et il y avait ça chez mon grand-père, qui était un juif ukrainien, arrivé en tant que docteur polonais, on appelait ça les docteurs polonais dans les années 30, qui a été aide de camp de Malraux, qui a sauvé la main de Malraux pendant la guerre et qui est devenu français grâce à ça. Donc moi, cette fascination qu'ont les natifs d'Europe de l'Est pour la France quand ils y arrivent, allez, ça me fait aimer mon pays. Donc, Gary me plaît beaucoup pour ça.
Puisque vous parlez de votre grand-père, c'est lui qui vous a nourri du point de vue des BD, puisque c'est lui qui vous en a offert. Et votre père, dans cette histoire ?
Mon papa, non. Mon papa est beaucoup plus classique, beaucoup plus littéraire. Lui, il aime le droit, il aime les institutions. Il a une vie assez héroïque à sa façon aussi, mais il m'encourageait plutôt au sérieux. Et cependant, dès que j'ai voulu être un artiste, il a tout fait pour me pousser. Donc, ça a été un bon papa.
Alors, quelle était la culture de BD que votre... mon grand-père vous a transmis
Conan le Barbare, les 4 Fantastiques de Jack Kirby, Hulk, enfin tout Stan Lee, Jack Kirby, John Buscema, rien de français en fait, que des super-héros.
Comment vous expliquez cela justement?
Je ne sais pas, ça lui plaisait. Enfin, il parlait 10 langues en même temps, il était très apatride, hein. Il était tout ce que déteste l'extrême droite, il était vraiment citoyen du monde. Hein. Et il aimait même l'Amérique.
Et à propos de votre goût pour les histoires, justement, j'ai lu dans un entretien que votre grand-père, justement, vous offrait aussi des revues consacrées au cinéma fantastique que vous découpiez pour faire des romans photos. C'est un jeu formateur ?
Oui, Mad Movies, l'écran fantastique. L'écran fantastique, je les ai depuis le numéro 1. Et je découpais les histoires de monstres, j'en faisais des romans photos. Mais comme je ne connaissais pas les histoires, je les faisais toujours plus gentils qu'ils n'étaient. Et quand les VHS sont arrivés, moi, je n'avais pas vu tous les films d'horreur. Et je les inventais pour les copains. La fois où je me suis fait choper, c'est quand j'ai raconté que les raisins de la colère, c'était des villageois qui devenaient des zombies parce qu'ils avaient bu un vin frelaté. Là, on a compris que j'inventais.
Vous avez été, j'ai pu lire aussi, alors je ne sais pas à quel moment, vigile dans les synagogues.
Absolument. Entre l'âge de 16 ans et de 21 ans, je m'occupais avec beaucoup d'autres jeunes gens de la sécurité de la synagogue de Nice, parce que c'est l'époque où les skinheads allaient brûler des pneus devant les portes de synagogue et tout ça. Ça a été un apprentissage de la vie assez intéressant.
Ça a nourri ensuite vos œuvres ?
Le résultat des courses, c'est qu'après, je suis devenu copain avec des skinheads aussi, parce qu'on allait dans les mêmes clubs de boxe, donc on devenait copains.
C'est un problème.
On s'aperçoit que la guerre sert à rien, parce qu'on devient copains.
Je sais que parmi vos références, Bill Clinton, il y en a deux. Il y a Robert Crump et Roland Topor, donc d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la France. Que doit votre démarche artistique à ces deux personnalités? Qu'est-ce que vous leur avez emprunté?
Roland Topor was a revelation to me because
En fait, Roland Topor était une révélation pour moi parce qu'il utilisait un style avec avec stylo et encre que moi j'adore.
And it was very rough and raw and crude. And that's why I like to make mistakes, because I want to be like Roland Topor.
Donc c'était un style très cru, et c'est pourquoi moi je veux faire des erreurs, parce que je veux être comme lui.
And Art Crumb, I just love his sense of humor. And
Robert Crumb, j'adore son sens de l'humour et aussi son style à dessiner.
John Sfar?
Moi qui vous parle, j'ai vu péter Roland Topor. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, il allait au Birdland tous les soirs prendre son chili con carne, et moi je prenais un chili à côté de lui, j'osais pas lui parler, et il riait et il pétait. C'est une grande inspiration pour moi.
Je peux imaginer.
Non, c'est vrai.
Et s'il y avait des références pour vous, pour votre dessin et pour votre propre construction?
Alors là je suis désolé de redire la même chose, mais Robert Crumb, c'est fondateur, Roland Topor, c'est fondateur, Fred, Sampé, Quentin Blake, tous ces gens qui sont tout seuls derrière leur papier et dont le dessin est l'expression totale et égoïste de leur vision du monde. Ça me plaît. Et puis s'il n'était pas là, je dirais que Bill Clinton est aussi une inspiration essentielle.
Topor, plus précisément, pourquoi?
Topor, c'est profond, parce que c'est un lien direct avec Georges Grosch, Otto Dix, Pasquine, tout ce dessin expressionniste d'Europe de l'Est. On dirait qu'il sort directement du simplicissimus allemand des années 20-30. Les affiches de films de Topor, ses dessins, ses notes sur les taxis. Moi, j'ai repris ça dans mes trucs autobiographiques, de raconter ce qui se passe dans un taxi. Ses émissions de télé, quand il fait Téléchat, quand il fait Palace. Il y a une manière de vouloir désinstitutionnaliser quelque chose, qu'après ses comparses ont rendu institutionnel après coup, mais au moment où il y était, il y avait vraiment une fouille. Il y a ce rire de Topor, il est là partout, c'est acide.
But there's another person I want to. You were mentioning some wonderful people, but I love Jacques Tati. He's a big influence on me.
Je voulais aussi parler de notre influence sur moi, c'est Jacques Tati.
The way he used visual humor and
la façon dont il utilisait l'humour visuel sans dialogue, vous pouvez voir ça dans Les Amants électriques.
And he's very surreal, and yet still, what we call in America deadpan. I don't know if that here's where there's no emotion.
Oui, il est très surréaliste et en même temps très deadpan, un peu pensant rire. Il y a pas d'émotion, mais il y a des blagues.
Chacun d'entre vous, est-ce qu'il y a des dessins que vous ne pourriez jamais publier et que vous avez déjà commis?
No, there's no problem with me publishing all my secret drawings, and the films are pretty.
Donc en fait, non, il n'y a pas de problème pour moi de publier tous mes dessins, même secrets, et mes films sont très honnêtes sur mes fantasmes sexuels.
Est-ce qu'il y a des dessins secrets de John Sfar?
Non, mais le service après-vente est compliqué. Par exemple, un ami m'a dit un jour qu'il se masturbait sur mes bandes dessinées de Pasquine, et depuis, je ne peux plus le voir, ça me gêne trop.
Qui, lui ou...
Non, lui, moi, mes dessins, je n'ai pas de problème. C'est quand un copain dit que ça l'excite et qu'il s'est branlé en les regardant, on est très embêté parce qu'on l'a.
On l'imagine systématiquement.
La relation devient compliquée.
Il vous a dit précisément sur quel dessin?
Mais je n'ai pas voulu savoir. Et je ne vous dirai pas quel dessinateur c'est, parce que c'est un dessinateur.
En plus?
Mais je ne le vois plus.
Et vous-même, vous êtes masturbé sur d'autres dessins que
non,
les vôtres?
Mais non, parce que les dessins ne me font pas bander, en fait, bizarrement. J'adore faire dessiner du porno, mais ça ne m'excite pas. Ça me plaît comme si je dessinais de la nourriture ou une bagarre. En fait, on aime dessiner l'être humain en action. Tout à l'heure, votre spécialiste là-bas a fait du piano. J'étais content de voir un pianiste. Il aurait eu une relation sexuelle avec quelqu'un, j'aurais éprouvé le même plaisir. J'avais homo faber, mais il peut faber sexe ou faber piano, ça me va.
Et vous, vos dessins vous excitent, Bill Plimpton? Vous pourriez vous masturber sur vos dessins, parce que là, on en est là dans la conversation.
Oui. That's the pleasure. The woman in the Rabbi's Cat was very sexy.
La femme dans le char à bain était très sexy.
C'est ma grand-mère. That's my grandmother.
J'ai l'impression que tous les dessinateurs se masturbent sur vos bandes dessinées. En fait, John Sfar.
On a absolument rien à faire. Et tu sais pourquoi elle est réussie, la nana du chat du rabbin? Parce que j'ai peur des femmes séfarades. Parce que mon père m'a dit épouse une fille juive. Donc je ne peux pas les regarder de manière sexuelle. Quand je les vois comme mon père. Donc du coup, je suis assez froid. Donc j'arrive à la dessiner pour que mes amis catholiques soient heureux.
Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Eh bien, on va calmer le jeu tout de suite en musique.
Lucille Como, une session inédite ce soir, piano.
Session à trois temps avec Ah-Gil Lim, jeune pianiste coréenne installée en France depuis quelques années pour suivre des études au conservatoire à Paris. Elle avait publié un album consacré à Beethoven qui avait été un grand succès, y compris sur la plateforme iTunes où le disque a battu des records de popularité. C'est suffisamment rare dans le classique pour qu'on le souligne. Son dernier album met en miroir Ravel et Scriabine. Ah-Gil Lim était venue dans nos studios en février dernier. Elle avait enregistré un titre inédit, une des deux valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, des valses écrites en hommage aux valses de Schubert. La partition de piano comporte une citation en exergue. « Le plaisir délicieux est toujours nouveau d'une occupation inutile. » Ah-Gil Lim, la valse noble et sentimentale numéro 1, on l'écoute. La valse noble et sentimentale numéro 1, donc, de Maurice Ravel sous les doigts de la jeune pianiste Ah-Gil Lim, un morceau enregistré dans nos studios en février dernier. L'album Ravel Scriabine apparu sous le label Warner Classic.
C'est éblouissant parce que regarder l'animation de Bill Clinton, c'est comme voir un nuage qui se déforme.
And if I have a dream, Disney owns the dream.
Et si j'ai un rêve, Disney est aussi propriétaire du rêve.
Merci à nos invités. Bill Clinton, votre film Les Amants électriques sortira en salle demain. Johan Sfar, votre adaptation de La promesse de l'aube de Romain Gary est parue aux éditions Futuropolis. Et les deux derniers tomes de Donjon chez Delcourt. L'album des Washington Dead Cats, Primitive Girls Are More Fun, est disponible sous le label DDM. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
Je marchais le long de la Garonne, respirant les senteurs de l'automne.
Demain, musique, poésie, littérature et calembour avec Pierre Perret et, oui, et Jean-Paul Manganaro. La session, ce sera Bibi Tanga.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission à réécouter en ligne ou à podcaster sur le site franceculture.fr. Une émission préparée ce soir par Lucille Como, Mathieu Conquet, Manou Farine, Benoît Lagan, Aïssatou Ndoye, Marie Pio et Xavier Martinet. Merci aux équipes techniques de France Culture et à la réalisation Thomas Beau.